Chassagnu. Cette semaine, Pierre Chassagnu rencontre Juliette. Ce soir, Juliette l'engagée.
Bonsoir Juliette Noureddine.
Bonsoir.
Quand on apprend à mieux vous connaître, ce qui est le cas depuis quelques jours, pour les auditeurs de France Culture, on découvre que vos chansons manient l'humour, parfois l'ironie, mais aussi le réalisme de l'existence et des expériences humaines. Certaines chansons résonnent même parfois comme autant de petites déclarations sociales ou politiques. Est-ce que c'est important pour vous, voire nécessaire, d'être en phase avec l'époque dans laquelle vous vivez et d'aborder par la musique ce qui vous touche ?
C'est pas nécessaire, c'est pas vital, c'est constitutif plus exactement. C'est-à-dire que je ne m'imagine pas hors de ni de mon époque, ni de la conscience que j'en ai en fait, hein, et qui devient de plus en plus excitante au fur et à mesure qu'on avance en âge. Parce qu'effectivement, la chose, c'est que je vois le monde changer. On a vu le monde changer. Quand on a un petit peu conscience de ce qui est autour, de ce que disent les gens, de ce que rapportent les médias, de ce que l'appréhension qu'on peut avoir du monde, que peut avoir par exemple la jeunesse aujourd'hui du monde, qui n'est pas la même appréhension tout à fait parce que le monde n'est pas le même que la jeunesse de mon temps, bref. On voit le monde changer, effectivement, d'en avoir en plus conscience, parfois laisse faire le constat de malheureusement j'avais raison, ça dégénère, mais parfois, ah bah ça s'est arrangé, ça va mieux, etc. Donc ça c'est intéressant, mais encore faut-il effectivement s'intéresser au monde autour de soi et qui est une... Voilà, c'est constitutif de ce que je suis. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi j'avais ce côté. Je pense que si je devais dire quelle est ma principale qualité, je pense que je dirais je suis altruiste, en fait. Je pense aux autres avant moi. En réalité, vraiment. Et les gens qui sont autour de moi le confirmeraient vraiment. Ça pose des problèmes parfois, mais bon, c'est comme ça. Effectivement, voilà, je pense que s'il y avait une qualité que j'ai, que je peux définir, ce serait celle-là. Mais je ne suis pas une militante. Alors, ça contredit un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement...
C'est pas obligé.
Non, on n'est pas obligé. Mais être militant, c'est aussi encore une autre nature que je n'ai pas. En même temps, peut-être que le fait d'être sur scène, de pouvoir parler sur scène, me permet une forme de militance, entre guillemets, sachant que, en plus, j'ai conscience que les gens qui sont en face de moi ne sont pas venus assister à un meeting politique. Ils sont venus assister à un spectacle de chansons. Et qu'on peut dire des choses, faire passer des idées, mais réellement s'en servir comme pour promouvoir des idées, etc. Ça s'appelle du prosélytisme, mais c'est pas trop mon truc non plus.
Alors, vous avez toujours assumé votre bord politique, qui est plus à la gauche qu'à la droite de l'échiquier. Qu'est-ce que c'est pour vous être de gauche aujourd'hui, Juliette Noureddine ?
C'est très compliqué être de gauche aujourd'hui parce que le mot est dévoyé complètement. On a l'impression, c'est Éric Fassin qui a parlé de ça, il l'a très bien défini, mais j'en avais conscience sans l'exprimer. On a l'impression que tout a basculé vers la droite. Alors, et en même temps que... Parce que tout a basculé vers la droite, l'extrême droite devient presque fréquentable, et tout ce qui est excessivement libéral, comme l'a été par exemple le quinquennat de François Hollande, est effectivement très libéral, même s'il y a l'étiquette socialiste, ce qui explique qu'aujourd'hui un responsable de parti socialiste se fait huer dans une manif et se fait sortir, c'est que tout a basculé et qu'on est sur un parti socialiste et des gens qui se... proclament de gauche, mais qui n'ont pas du tout les valeurs de gauche, absolument pas, et qui n'emportent évidemment pas du tout les réformes non plus. Et on se retrouve avec cette chose qui a basculé dans un truc complètement délirant qui nous permet de considérer Jean-Luc Mélenchon comme de l'extrême gauche. Bon, d'accord, okay, je crois que vous savez pas ce que c'est que l'extrême gauche, et de dire voilà, Jean-Luc Mélenchon est communiste, quoi. Mais non, Jean-Luc Mélenchon il est pas communiste, j'ai jamais été, alors vraiment pas du tout. Et puis d'avoir un faux regard sur tout cet échiquier là, considérant aussi parce que c'est un discours malheureusement corroboré par quelques faits, de toute façon ils sont tous pourris. Enfin, nos hommes politiques sont tous pourris. C'est pour moi une vision radicale, poujadiste, pas intéressante, parce que je connais des responsables politiques, je les connais pas personnellement, mais je les connais un peu, des responsables politiques de droite ou de gauche qui font très bien leur travail et qui sont très honnêtes. Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi remettre les choses dans des perspectives. Donc j'ai toujours un doute aussi sur la sincérité des médias qui vont charger un truc justement dans ce sens-là, parce que tant que les gens disent ils sont tous pourris, ils s'intéressent plus à la politique, donc ils votent pas. Donc si on vote pas, on n'a aucune chance de voter pour ce qui pourrait nous défendre. vous savez, toujours pareil, hein, c'est, si on n'y va pas, on a perdu. Hein. Vous vous battez pas, vous allez peut-être perdre, mais si vous vous battez pas, vous avez déjà perdu. Voilà. Donc il y a une espèce de, je pense, de convention généralisée. Je veux pas ni attaquer les médias parce que c'est une espèce de truc un peu vaste dont on sait pas très bien quoi dire là-dedans. Il y a des éditorialistes, il y a des gens comme ça, des manipulateurs d'opinion, voilà, peut-être, qui ont plus voix au chapitre et qui nous poussent dans notre fainéantise naturelle à aller plutôt à la pêche le jour d'élection plutôt que d'aller voter pour des gens qui pourraient nous défendre ou bien pour défendre ses propres opinions. On a le droit, je pense, dans ce pays d'être de droite et de le proclamer. Mais voilà, je pense aussi qu'il faut être d'accord sur la base des choses et tous parler de liberté, d'égalité, de fraternité. Puis après, on peut être de droite, mais il y a des bases qu'on ne peut pas... sur lesquels on ne peut pas revenir, c'est pas bien.
Alors, il me semble que les artistes d'aujourd'hui sont très au fait des questions sociétales, comme l'évolution du mœurs, notamment, laissant davantage de côté les questions sociales, qui remettent davantage en cause le système économique néolibéral. Or, et il n'y a pas si longtemps, les clivages et les prises de position sociale des artistes étaient bien plus marqués. Je pense là à Jean Ferrat, Mouloudji, Montand, Brassens, Ferré, Brel, Gréco, même Sardou, qui tous ont à un moment donné pris position politiquement sans calculer les risques pour leur carrière. Est-ce que vous vous sentez, vous, Juliette Noureddine, appartenir à la trempe de ces artistes-là? Et est-ce que vous vous définiriez comme une artiste engagée?
C'est compliqué pour moi parce que je n'écris pas des chansons engagées qui sont réellement faites comme ça. Citer l'exemple de Jean Ferrat est un monsieur qui a écrit des choses excessivement poétiques, de très très belles chansons, des chansons sur des sujets divers et variés, mais on sait aussi qu'il a écrit des chansons vraiment politiques. Léo Ferré, n'en parlons pas. C'est... Je trouve ça admirable, hein, mais c'est une autre forme de chanson encore. Je suis pas là-dedans, je suis pas dans la chanson engagée, parce que j'ai toujours craint quelque chose. Alors ça, c'est de l'ordre de ma prétention personnelle. C'est l'histoire de la postérité. Je dis ça avec un demi-sourire, mais un petit peu quand même. J'ai toujours été marquée, quand j'étais enfant, par la découverte de Molière. La découverte de Molière avec mon professeur de français ou de primaire, je me souviens pas, ça a été de dire qu'un homme du XVIIe siècle avait écrit des choses qui nous parlaient encore. Parce que les personnages qu'il présentait, c'était des parangons, c'était des grands exemples, c'était Harpagon, c'était Les Précieuses Ridicules, c'était Monsieur Jourdain, évidemment, etc., etc. Et donc, j'ai été marquée par ça dans mon enfance en me disant, voilà, cet homme-là, il l'a peut-être pas fait exprès, mais en même temps, pourquoi est-ce que ça a dépassé la frontière du XVIIe siècle? Pourquoi, on est encore touché, on se marre encore avec Harpagon et avec ça? Donc, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose dans l'écriture et dans la création artistique qui dit, je m'adresse à vous, mes contemporains, mais je m'adresse aussi aux contemporains de demain. Ça va pas mourir avec moi. Il y a quelque chose de ça. Et quand j'écris une chanson, c'est bien modestement des chansons, mais j'ai cette chose-là toujours. De dire, j'ai pas envie de dire... Alors, ça m'est arrivé, bien sûr, de citer des noms, etc., de faire du name dropping. Mais c'est assez rare et c'est très particulier. Voilà, mais c'est pas l'essentiel de mon œuvre qui est basée là-dessus. C'est vraiment, j'écris sur des sujets... Je pense d'aujourd'hui, mais avec quelque chose d'un caractère universel, entre guillemets. J'espère ça tout le temps. Et je travaille pour ça. Je travaille beaucoup pour ça, en fait, en réalité. Je travaille énormément. J'écris, je raye, je recommence, je machin, parce que je veux pas laisser passer des trucs en me disant, voyons, dans 50 ans d'ici, si quelqu'un écoute cette chanson, c'est con, André. C'est un peu prétentieux, hein, non. J'ai l'impression d'être Victor Hugo, des fois.
Est-ce que vous avez déjà participé à un collectif d'artistes au profit d'une cause particulière?
Oui, d'une certaine manière, je me suis pas vraiment engagée. J'en ai fait pas mal. J'ai fait des concerts de soutien, beaucoup, évidemment, parce que c'est la première sollicitation qu'on a. Je dois avouer qu'on choisit quand même un petit peu, parce que sinon on finirait par passer sa vie à faire des concerts bénévoles. Voilà, j'ai pas été sollicitée pour les Restos du Cœur, etc., pour ce genre de grandes manifestations. Mais j'étais sollicitée par l'Observatoire international des prisons. J'étais sollicitée par des actions pour la chaîne de l'Espoir, par exemple, qui est une chaîne de médecins qui s'occupe d'aller travailler et de construire des hôpitaux et d'enseigner dans des pays où l'accès à la médecine est plus compliqué. Voilà. Donc j'ai ce genre de choses, mais voilà, c'est pas vraiment, franchement, fondamentalement dans ce genre d'action-là que s'exprimerait le mieux mon sentiment d'injustice face au monde. Je suis toujours, en vrai, voilà, exactement ce que je veux dire, c'est-à-dire, je suis toujours un petit peu triste et malheureuse que ce soit des associations privées, des bénévoles qui fassent une partie du travail que doit faire le gouvernement et que doit faire la société, les responsables politiques. Je suis très triste de ça. Je suis contre les Restos du Cœur, en fait, en réalité. Non, c'est, entendez bien ce que je dis, bien entendu. Heureusement qu'ils sont là. Mais je trouve que de cette idée généreuse et politique, d'ailleurs, à un moment lancée par Coluche, ce soit devenu une espèce d'institution. C'est une institution, voilà, maintenant, c'est les Restos du Cœur, ça pose problème à personne. Mais ça veut dire quand même qu'il y a un manquement très très grave de la part de l'État, de l'engagement de l'État. C'est pas à moi de donner mon surplus alimentaire. D'abord, bon, après, on peut discuter du surplus alimentaire, parce que là aussi, je suis pas contente, mais j'ai beaucoup de sujets de mécontentement, en fait, en réalité. Je pense qu'on consomme trop, on jette trop, beaucoup trop. En fait, ce qui nous est proposé à la consommation, c'est fait pour être jeté, en fait, la plupart du temps. Bref, ça, c'est une parenthèse. Voilà, je suis un peu triste qu'on soit obligé, à titre personnel, de militer, de participer à des choses pour lesquelles on devrait participer. Ça s'appelle les impôts, par exemple. Et que ces impôts-là servent à ça. Voilà, je suis très malheureuse de ça. Et alors, je trouve, c'est rigolo parce que j'en parlais hier. Je sais plus si c'est en Norvège ou en Finlande, mais je crois que c'est la Norvège qui est réputée, dont les habitants disent nous sommes les plus heureux. Alors donc, c'est le pays le plus heureux d'Europe. Et c'est aussi le pays où on paye le plus d'impôts. Voilà, ça veut dire des choses. Simplement, je pense qu'ils sont heureux de payer des impôts aussi parce qu'ils savent où ça va. Qu'il y a une espèce de nébuleuse en France, on sait qu'il y a beaucoup d'argent public qui est gâché, on sait, etc. Puis surtout, il y a des décisions politiques qui sont prises, qui sont à l'envers de ce que devrait être la gestion d'un pays par un gouvernement. Normalement, pour moi, une société humaine, c'est un rassemblement d'individus où les plus forts prêtent aide aux plus faibles. Pour moi, ça, c'est la base de la société. Mais enfin, bon, apparemment, c'est pas ça pour tout le monde. Hein.
On en est loin.
On en est assez loin, oui.
Dans votre ouvrage autobiographique, Mensonges et autres confidences, vous assumez ne pas croire en Dieu, précisant même que votre athéisme remonte à plusieurs générations. Et pourtant, s'il est un thème très actuel et aussi très présent dans votre discographie, c'est bien Dieu. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Parce que je pense que c'est une idée qui n'est jamais très loin d'un être humain. En fait, l'idée que d'abord on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas arrivé là par hasard, ça nous semble tellement vertigineux d'imaginer ça. Donc l'idée de Dieu, elle est toujours, je pense qu'elle est toujours dans tout le monde. On a tous à un moment, y compris les incroyants, je pense, appelé Dieu à son secours, quoi. À un moment donné, tourné vers le ciel, on l'a appelé comme on voulait, mais on s'est toujours dit, il faudrait que la divine providence m'aide là, ça va pas être possible. Et je crois que c'est arrivé à tout le monde, y compris aux grands incroyants. Il y a autre chose, c'est que je suis un produit culturel de la comtesse de Ségur, faut pas l'oublier, hein, d'une grande fascination pour d'abord pour la musique que j'ai écoutée aussi. Moi, j'ai écouté Mozart, donc j'ai par exemple mes premières cassettes que je me suis achetées. Moi, la musique classique, c'est une découverte que j'ai faite toute seule, bizarrement. On n'en écoutait pas à la maison, donc comme je jouais du piano, ça m'a intéressée. Puis j'ai beaucoup aimé Mozart, alors j'ai commencé à écouter Mozart. Et puis effectivement, j'ai écouté des messes. Il y a des messes de Mozart. Qu'est-ce que j'ai après? Jean-Sébastien Bach, évidemment. Alors là, c'est comme on sait, Jean-Sébastien Bach, il a beaucoup fait pour Dieu. Il devrait le remercier pour la croyance en Dieu. C'est une musique qui porte vraiment vers la spiritualité, quoi. Et puis, j'ai lu la Bible racontée aux enfants. Quand j'étais môme, j'avais ce bouquin. C'était la Bible racontée aux enfants. Mais j'adorais, quoi. C'est une histoire incroyable, quoi. Les sept plaies d'Égypte, la fuite, la mer rouge qui s'ouvre et tout. Mais attendez, c'est formidable. Donc, j'ai été baignée là-dedans. Puis après, au fil de mes lectures, puisque j'ai beaucoup lu de livres, je me suis rendu compte qu'il y avait un fond culturel commun à tous ces gens que j'ai pu lire, donc évidemment la littérature française, mais aussi la littérature sud-américaine, mais aussi la littérature américaine, et c'est ce christianisme, pas seulement le catholicisme, le christianisme, je dis bien, donc le protestantisme, etc., qui nous baigne, donc on est tous issus culturellement d'un même livre. Mais encore plus loin que ça, on est tous issus culturellement d'un même livre. Après, vous rencontrez par le biais de la littérature la judéité. Mais on parle du même livre, on est basé sur la même chose. Vous allez rencontrer d'autres choses, l'islam, etc. On sait très bien, tout ça vient du même... Il y a des fonds communs, quoi. On a un fond commun, qu'on le veuille ou non, qui est basé culturellement sur ces images représentées des écritures autour de Dieu. C'est pas Dieu, c'est les écritures autour de Dieu. Et en fait, je crois que mon athéisme, il est basé sur... Je suis anti-religieuse. Je suis pas...
Anti-dogme.
Antidogme, voilà. De toute façon, antidogme, même politiquement d'ailleurs, parlons-en. Parce que je suis pas d'accord avec tout ce que disent mes camarades. J'emploie le mot camarade à dessein. Je suis pas toujours d'accord avec ça. Et je trouve qu'on est tous, ça va mieux en le disant, mais qu'on est tous comme ça, pas d'accord sur tout. On peut être d'accord sur l'essentiel. Et on doit marcher parce qu'on est d'accord sur l'essentiel. Sur le détail, après, on peut discuter. Voilà.
Alors, on a vu, vous avez gagné plusieurs concours de chant, mais vous avez aussi gagné deux fois le prix Charles Cros. Vous avez gagné deux victoires de la musique en 1997, en 2006. Vous êtes chevalière de la Légion d'honneur et chevalière des arts et des lettres.
Officier des arts et lettres.
Officier.
Et chevalier du mérite.
D'accord.
Donc j'en ai trois en fait. Je suis décoré comme un sapin de Noël. C'est chouette, non ?
Dans votre dernier album, il y a une chanson que l'on a d'ailleurs écoutée hier en fin d'émission et qui s'intitule « Je remercie ». Il semblerait, Juliette Nourédine, que vous ne soyez pas insensible aux honneurs et que vous aimiez vous la péter.
Absolument. Je suis très... c'est rigolo, mais j'avoue mes faiblesses, parce qu'on pourrait considérer ça comme une faiblesse. En même temps, je ne me suis pas vendue pour ça. J'ai pas dérogé à ce que je suis pour recevoir des médailles. On me les a données, je les ai pas refusées. J'aurais pu, je n'ai pas fait. Parce que j'ai toujours pensé, c'est rigolo, mais j'ai toujours pensé à ma grand-mère à chaque fois qu'on m'a remis une... D'abord, quand j'ai eu les arts et lettres, ma grand-mère était toujours de ce monde. Et je me souviens, elle était fière parce que la République me remerciait et me récompensait pour ce que je fais et pour la façon dont je le fais. Et donc j'étais fière pour elle, elle était contente, etc. Je me rappelle aussi, j'avais reçu une carte de vœux de Jacques Chirac, qui était président de la République à l'époque. Je devais faire partie des gens dont on parlait, je sais pas. Et ça l'avait très rendu très très fier aussi. Non pas que ce soit Jacques Chirac, mais que ce soit le président de la République. Donc j'ai toujours ce truc de la République. Voilà, moi je suis petite fille d'une institutrice de la Troisième République. Et donc quand la République me récompense, je suis contente, je suis fière. Je me dis, je suis pas... Voilà, c'est ma faiblesse, j'avoue.
Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être reconnu par vos pairs, mais aussi par votre pays ?
Ah bah je parlais tout à l'heure des gens qui souffraient et qu'on souffre beaucoup du manque de sûreté de soi. Et le manque de sûreté de soi, il est essentiellement dû, souvent, hein, essentiellement, au regard des autres, hein, comment les autres vous regardent. Donc imaginez-vous quand tout un pays, par le biais de ses responsables politiques élus, normalement, vous récompense ou vous remercie. Oui, il y a de quoi être fier, je pense, vraiment, franchement, fondamentalement, ça veut dire... voilà, en plus, il se trouve que dans ma carrière qui est longue, j'ai pas vendu, j'ai pas dérogé. Je sais pas comment dire, voilà, je suis restée comme je suis, parce que je m'en fous un peu, en fait, à vrai dire. Et donc, c'est... C'est agréable de se dire, voilà, mon travail est récompensé, mon travail est reconnu. On ne s'est pas arrêté à des préjugés en ce qui me concerne. On aurait pu s'arrêter au fait que je sois une fille à lunettes, assez ronde, très ronde, etc., avec un nom arabe, enfin, etc. On aurait pu s'arrêter à plein de choses avec moi. Et puis donc, parce que mon travail, parce que ma voix, parce que la façon dont je le fais, etc., bah, il y a une reconnaissance qui n'est pas désagréable, mais qui me gêne un peu, en fait, parce que je me dis toujours, mais vous êtes trop gentil. Je mérite pas tant.
Alors, avant de se quitter, pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on entre ensemble plus en détail dans le processus créatif d'une chanson de votre répertoire, une chanson que je trouve personnellement très jolie et subtilement politique. Alors, à la manière d'une masterclass d'un comédien ou d'un réalisateur de cinéma, j'aimerais que vous me racontiez la genèse de l'histoire, l'écriture et la composition de la chanson Maudite Clochette, tirée de l'album Mutatis Mutandis.
En réalité, Maudite Clochette a été écrite, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais avant le film Blessure Assassine. Les Blessures Assassines, donc un film avec Sylvie Testud qui raconte cette histoire réelle qui a eu lieu dans les années 30 au Mans et qui est l'assassinat de Madame Lancelin, je crois bien qu'elle s'appelait. Une bourgeoise et sa fille du Mans qui ont été sauvagement assassinées par leurs deux bonnes. Et ce fait divers a eu un grand retentissement puisque c'est lui qui est à la base des bonnes de Jean Genet, de la pièce. Donc un grand retentissement dans lequel effectivement les gens de l'époque ont voulu voir aussi une histoire sociale, c'est-à-dire cet écrasement de deux filles, hein, de deux jeunes filles qui n'ont pas d'avenir autre que d'être des bonnes et qui pourtant étaient relativement bien traitées, je pense. En plus, c'était une bonne maison, c'était une maison bourgeoise avec des gens humains, je pense, effectivement. Comme si la pression sociale avait fait exploser ces deux femmes et un petit peu à la manière de le peuple français a guillotiné Louis XVI, qui n'était pas celui qui le méritait le plus, un petit peu à cette manière-là. Et je pense qu'effectivement, on peut lire ce fait divers de cette manière. Il est paru un bouquin, je crois d'ailleurs que son titre était Les Blessures Assassines. Il est paru un bouquin d'une dame, le nom m'échappe, vous me pardonnerez, sur lequel s'est basé le cinéaste qui a fait Les Blessures Assassines, qui, elle, avance effectivement cette explication sociale, mais elle en avance une autre, qui aurait été un peu plus sexuel et un peu plus, comment dirais-je, un peu plus glauque, on va dire ça comme ça, qui aurait été que les deux bonnes, toutes sœurs qu'elles étaient, couchées ensemble, sans doute parce que privées d'affectifs et d'affection depuis leur plus jeune âge, puisqu'elles ont été placées très jeunes, et se raccrochant l'une à l'autre, et donc auraient été surprises par les patronnes qui seraient rentrées plus tôt et auraient déchaîné cette violence. C'est une explication, je pense, qui psychologiquement se tient aussi. Mais l'auteur de ce bouquin n'excluait pas non plus la notion sociale, hein, bien entendu. Justement parce que ces jeunes filles n'avaient pas bénéficié d'une enfance aimée, aimante, simple, heureuse, familiale, etc. Donc c'était des jeunes filles qui étaient victimes aussi d'une époque et d'une condition sociale particulière. Et donc j'ai écrit cette chanson en pensant à ça. Mais il se trouve que j'ai écrit le premier couplet, avec le premier refrain, avec la musique. Et que j'en étais très contente. Mais je me suis dit, bon, ben voilà, ça y est, c'est fait, j'ai tout dit là. Je ne voyais pas comment la finir, cette chanson-là. J'ai une autre source d'inspiration dont il faut que je parle, parce que c'est vrai que ça me revient. J'avais été invitée au mariage d'un copain dont le père avait racheté une maison bourgeoise un peu décrépite dans la région d'Angers. Et cette maison, c'était une maison à l'ancienne, où donc on voyait bien, il y avait les cuisines, il y avait une espèce d'escalier invraisemblable qui montait tout en haut aux chambres de bonne. La cuisine était au rez-de-chaussée, une espèce de grand pâté, un peu comme ils ont fait beaucoup au 19e siècle, hein, avec des escaliers. Et moi, je me suis dit, moi qui ai toujours eu un peu d'arthrose dans les genoux, je me suis dit, j'aurais pas pu faire ça, moi, être bonne, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et en fait, l'histoire de monter, descendre, c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire que l'idée est partie d'une idée musicale. L'idée est partie de une mélodie qui monte et qui descend. Et puis le fait d'entendre cette clochette aussi, de dire comment on faisait pour appeler les bonnes, il y avait tout un système. En plus, ils avaient encore dans la maison ce système, donc avec une espèce de tableau comme ça, puis des trucs. Et quand il y a une cloche qui sonnait, on savait si c'était la patronne dans sa chambre, le patron dans la sienne, les enfants dans la bibliothèque ou je sais pas, et le colonel Moutarde dans la cuisine. Mais donc on avait comme ça cet appareil à clochette qui sonnait. Et donc je me suis dit, mais une grande maison avec plein de chants, ça doit sonner en permanence. Donc les types, ils sont là, ils n'ont pas une minute à eux. Et en avant, quoi. C'est, on monte, on descend, on y va, on y retourne.
Et c'est extrêmement violent d'être associé à une clochette.
Et alors après, moi, ce qui m'a évidemment sur l'écriture. Alors je suis restée coincée un bon moment sur ce premier couplet, ce premier refrain, en me disant, bon voilà, ça y est, on a compris, c'est une bonne et tout. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais pas faire quatre couplets sur je monte, je descends, je remets les chaussettes de monsieur, je mets le machin. Il va bien falloir avancer. Il se trouve que j'avais lu ce livre. Et donc, très naturellement, la bonne est devenue une des sœurs Papin. Mais pas vraiment, parce qu'elle est toute seule. Elle a pas de sœur, hein. Là, en l'occurrence, elle est toute seule. Mais ça se termine qu'un jour, la clochette va prendre le dessus et qu'elle va lui faire bouffer, quoi. Et pour lui faire bouffer, elle va lui couper la tête, c'est tout. Ah, c'est très violent parce qu'il y a un moment on explose. Parce que je sais pas, c'est rigolo parce que par exemple, vous voyez, en ce moment j'habite un appartement, ma voisine du dessus qui est une dame charmante, quand elle se déplace chez elle, ça me rend dingue parce que tout le plancher grince en fait. Et donc au bout d'un moment, je suis dans un état d'exaspération intense quoi, parce que c'est prise de tête comme on dit aujourd'hui. Bon, je vais pas monter égorger ma voisine normalement, j'espère que personne va le faire parce que. Maintenant que je viens de le déclarer publiquement, je vais faire partie de la liste des suspects numéro un. Mais cette exaspération de quelque chose dont on n'est pas responsable, qui est pas vraiment dérangeant, qui est juste un peu vrillant, voyez, comme ça, c'est un truc, ça rend fou, quoi. Ça rend complètement fou. Je pense que la bonne en question, c'est pas le travail qui l'épuise, c'est la clochette, réellement. C'est-à-dire c'est ce qui fait le lien entre elle et sa patronne. Bon, puis on comprend dans la chanson que sa patronne est particulièrement chiante, hein, évidemment.
Merci Juliette Noureddine. Le mieux maintenant, c'est que l'on écoute cette chanson, Maudite clochette, avant de se retrouver demain.
Du matin au soir, il faut courir dans l'escalier, le monter, le descendre et le monter. Au ding-ding oppressant de la clochette qui sonne et qui ressonne et qui résonne et qui ordonne. Pas une minute de répit, il faut croire que la patronne ne peut rien faire sans sa bonne. Un coup pour aller l'habiller, deux pour le petit déjeuner, c'est parti pour toute la journée. Pour les affaires à repasser, pour les chaussettes de monsieur, pour les chapeaux ou les cheveux. Finir un sourire passé en guise de vague, merci madame, pense que ça suffit. Maudite clochette et maudit métier, je fais la soubrette dans les beaux quartiers. Quand j'entends sonner, je suis toujours prête, modeste et discrète, serviable et zélée, en un mot parfaite. Maudite clochette. Dire que madame sait faire marcher d'une maison au doigt, à l'œil, à la baguette. Ici maintenant, pour un oui, pour un non, à tort ou à raison, elle fait sonner sa sonnette. Alors surtout, il faut se presser, ne pas traîner ni rêvasser, ne pas penser, ne pas penser. Ding ding, viens ici, va là-bas, ding ding, fais ceci, fais cela, ding ding, préparez-nous le repas. Ding ding, servez le thé au salon, ding ding, il nous faut du charbon, ding ding, faites les cuivres à fond. Du haut en bas de l'escalier, des chambres aux cuisines, ding ding ding, ding ding ding. Maudite clochette et maudit métier, je fais la soubrette dans les beaux quartiers. Quand j'entends sonner, je suis toujours prête, mon corps et ma tête, jamais fatiguée, et rien ne m'arrête. Maudite clochette. Madame s'arrange bien souvent pour sucrer mon jour de congé, oublie de me le redonner. Quand je fais une course au marché, elle recompte la monnaie, avant, après, on ne sait jamais. Et s'il manque une petite cuillère, on ne dit rien et l'on s'étonne, mais c'est la bonne qu'on soupçonne. Comme elle a la fâcheuse manie de contrôler mes faits et gestes, qu'elle veut savoir d'où est le reste. Cette garce surveille mes lectures, épluche mon maigre courrier, fouille ma chambre et mon passé. Mais je ne dis rien, je serre les dents, la m'humilier, je ne suis personne qu'une domestique que l'on sonne.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pierre Chassagneux avec Juliette. À Voigny, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Sandrine Malon, coordination Claire Poinsignon.
Quand j'entends sonner, je suis toujours prête, pauvre marionnette.
À Voigny s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.
Maudite clochette. Je sais bien qu'une nuit viendra, nuit de colère, nuit de cendre. Ding ding, il me faudra descendre. Madame a tellement peur de l'orange, et comme monsieur est parti, faut que je lui tienne compagnie. Que je redresse ses oreillers, que je lui porte un verre de lait. Et plus vite que ça, s'il vous plaît. Tu ne devrais pas parler comme ça, pauvre madame, saute dans ton lit, si vulnérable à ma folie. Tu viens de sonner une fois de trop, il faut que cesse cette torture, à coups de ciseaux de couture. Et je vois dans ton regard.
tombe sur ma haine. Maudite clochette et maudit métier, sais-tu que je souhaite quand j'entends sonner te couper la tête et la faire rouler du haut de l'escalier, les mâchoires serrées sur ta chère clochette à jamais muette.
Ça va, on vient, on arrive.
Maudite clochette.